Chapitre 27. Hegel. Ce qui est raisonnable, c'est ce qui est doué de vie.
Hilde laissa tomber lourdement le gros classeur par terre. Elle resta sur son lit, à fixer le plafond. Elle était prise de vertige. Les images dansaient devant ses yeux. Ah, pour ça, on pouvait dire qu'il avait réussi son coup. Ah, le lâche! Mais comment avait-il fait? Sophie avait tenté de lui adresser la parole directement, en lui demandant de se révolter contre son père. Elle était vraiment parvenue à semer le doute dans son esprit. Et si elle suivait leur plan? Sophie et Alberto étaient hors d'état de toucher un cheveu de la tête de son père. Mais Hilde, elle, à travers elle, Sophie pouvait s'approcher de son père. Elle reconnaissait qu'Alberto et Sophie n'avait pas tort quand il reprochait à son père d'aller trop loin dans son jeu avec ses personnages. Il les avait inventés de toutes pièces, soit. Mais il y avait des limites à ce qu'il pouvait faire d'eux. Pauvre Sophie et Alberto. Ils étaient tout aussi sans défense vis-à-vis de l'imagination du major que l'écran est sans défense vis-à-vis du projectionniste. Pour ça, oui, elle allait lui en faire voir de toutes les couleurs quand il rentrerait. Elle imaginait déjà les grandes lignes du bon tour qu'elle allait lui jouer. Elle alla à la fenêtre et regarda la baie. Il était presque 2 heures. Elle ouvrit la fenêtre et cria en direction du hangar à bateaux.
« Maman !»
Sa mère sortit sur le champ.
« Je descends t'apporter quelques tartines dans 1 heure, ça te va ?»«
Oui, très bien.
Je dois juste lire un peu sur Hegel. »
Alberto et Sophie s'étaient assis chacun dans leur fauteuil près de la fenêtre qui donnait sur le lac. Georges Wilhelm Friedrich Hegel était un authentique fils du romantisme, commença Alberto. Il suivit toute l'évolution de l'esprit allemand. Né à Stuttgart en 1770, il commença à 18 ans à étudier la théologie à Tübingen. À partir de 1799, il travailla avec Schelling à Iéna, au moment précisément où le mouvement romantique était à son apogée. Après avoir enseigné à Iéna, il obtint un poste de professeur à l'université de Heidelberg, qui était alors le centre du romantisme national allemand. Enfin, à partir de 1818, il obtint une chaire à Berlin, qui était déjà à cette époque en passe de devenir le centre intellectuel de toute l'Allemagne. Il mourut en 1831 du choléra. Mais l'hégélianisme avait d'ores et déjà trouvé un large public dans la plupart des universités allemandes. Il a somme toute plutôt réussi. Son œuvre de philosophe surtout. Hegel réunit et développa les principaux courants de pensée des romantiques, ce qui ne l'empêcha pas d'exercer une critique virulente à l'égard de la philosophie de Schelling. Que critiquait-il? Schelling et les autres romantiques voyaient dans « l'esprit du monde » l'origine de l'existence. Hegel aussi utilise l'expression « d'esprit du monde », mais il lui donne un tout autre sens. Quand Hegel parle de « l'esprit du monde » ou de « la raison du monde », il veut dire « la somme de toutes les manifestations à caractère humain ». Car seul l'homme a un esprit. C'est dans ce sens que nous pouvons parler de la progression de l'esprit du monde à travers l'histoire. Nous ne devons jamais oublier que nous parlons de la vie, des pensées et de la culture des hommes. Cet esprit devient un peu moins fantomatique, si je comprends bien. Il ne reste pas tapis au creux des pierres et des arbres comme une intelligence assoupie. Tu te rappelles que Kant avait parlé de quelque chose qu'il avait appelé « das Ding an sich », la chose en soi. Même si, selon lui, l'homme ne pouvait sonder le mystère de la nature, il existait cependant une sorte de vérité inaccessible. Hegel dit que la vérité est fondamentalement subjective, et il ne croyait pas qu'il puisse exister une vérité au-dessus ou en dehors de la raison humaine. Toute connaissance est connaissance humaine, pensait-il. Il voulait en gros faire retomber les philosophes sur Terre. On peut présenter les choses de cette manière. Mais la philosophie de Hegel étant très complexe et nuancée, nous nous bornerons à souligner quelques points essentiels. Il est difficile d'affirmer que Hegel avait sa propre philosophie. car ce terme recouvre avant tout chez lui une méthode pour comprendre le mouvement de l'histoire. C'est pourquoi il est quasiment impossible de parler de Hegel sans parler de l'histoire des hommes. Sa philosophie ne nous apprend rien sur la prétendue nature intime de l'existence, mais elle peut nous apprendre à réfléchir de manière efficace. Ce n'est peut-être pas plus mal ? Tous les systèmes philosophiques avant Hegel avaient en commun d'essayer de trouver les critères éternels qui pourraient déterminer le champ du savoir de l'homme. Cela vaut pour Descartes et Spinoza aussi bien que pour Hume et Kant. Chacun avait tenté de définir les fondements de la connaissance humaine, mais en se situant chaque fois dans des conditions intemporelles. N'est-ce pas pourtant un des premiers devoirs du philosophe ? Hegel pensait justement qu'on ne pouvait pas faire l'impasse du devenir, car ce qui est à la base de la connaissance humaine se transforme au fil des générations. C'est pourquoi on ne peut parler de vérité éternelle. Il n'existe pas de raison intemporelle. La seule base solide à partir de laquelle le philosophe peut travailler, c'est l'histoire elle-même. Attends, il faut que tu m'expliques un peu mieux. L'histoire est en perpétuel changement. Comment pourrait-elle constituer une base solide ? Un fleuve aussi est en perpétuel changement, et tu peux quand même en parler. Mais il serait vain de se demander à quel endroit de la vallée il mérite le plus le nom de fleuve. Non, car il reste un fleuve tout du long. Eh bien, pour Hegel, l'histoire est semblable au cours d'un fleuve. Le moindre mouvement de l'eau en tel point du fleuve est certes déterminé par la chute et les tourbillons de l'eau loin en amont du fleuve, mais aussi par les cailloux et les méandres du fleuve à l'endroit où tu te trouves pour l'observer. Je commence à comprendre. Toute l'histoire de la pensée, autrement dit, l'histoire de la raison, est comme le cours d'un fleuve. Toutes les pensées que la tradition fait déferler sur nous, d'une part, et les conditions matérielles qui déterminent notre présent, d'autre part, concourent à définir notre mode de pensée. Tu ne peux donc aucunement prétendre que telle ou telle pensée est juste et éternelle. Elle peut tout au plus se révéler juste là où tu te trouves. Alors, peu importe si c'est faux ou juste, ça revient au même, quoi. Mais non, chaque chose peut être juste ou fausse selon le contexte historique. Si tu défends l'idée de l'esclavage en cette fin du XXe siècle, tu passeras dans le meilleur des cas pour un bouffon. Mais, il y a 2500 ans, on ne voyait pas les choses de la même façon, malgré quelques esprits plus avancés qui s'élevaient déjà contre cette pratique. Tiens, prenons un exemple plus proche de nous. Il y a à peine 100 ans, il ne semblait pas déraisonnable de brûler de grandes étendues de forêt afin de permettre d'accroître les terres cultivables. On a aujourd'hui bien changé d'avis. Tout simplement parce que nous avons de tout autres éléments, et de bien meilleurs, pour juger un tel acte. Ça va, j'ai compris maintenant. Hegel souligne que c'est la même chose pour la réflexion philosophique, à savoir que la raison est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire un processus. Et la vérité est ce processus même. Il n'existe en effet aucun critère extérieur à ce processus historique pour déterminer ce qui présenterait le plus grand degré de vérité ou de raison. Des exemples. Tu ne peux pas tirer hors de leur contexte différentes pensées de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance ou du siècle des Lumières, et les classer en disant « celle-ci est juste et celle-là est fausse ». Tu ne peux pas dire que Platon avait tort et Aristote raison, ou encore que Hume avait tort, mais que Kant et Schelling avaient raison. C'est une manière complètement anti-historique d'analyser le problème. Non, ça ne paraît pas génial, en effet. En règle générale, on ne peut jamais séparer un philosophe ou une pensée, quel qu'il soit, de leur contexte historique. Mais j'en viens à un point essentiel. Parce qu'il arrive toujours quelque chose de nouveau, la raison est progressive. C'est-à-dire que la connaissance de l'être humain est en perpétuel développement et, vu sous cet angle, ne fait qu'aller de l'avant. En ce sens, la philosophie de Kant
est peut-être plus juste que celle de Platon, non ?
Oui, l'esprit du monde s'est développé, s'est élargi, de Platon à Kant. C'est bien la moindre des choses. Si nous retournons à l'image du fleuve, nous pouvons dire qu'il y a de plus en plus d'eau. Plus de 2000 ans se sont écoulés. Kant ne doit cependant pas se leurrer en croyant que ces vérités vont tranquillement se déposer sur les rives et devenir des rochers inébranlables. Ses pensées, sa raison, à lui aussi vont subir l'assaut et la critique des futures générations. Et c'est exactement ce qui est arrivé.
Mais ce fleuve dont tu me parles,
eh bien,
où va-t-il ?
Hegel dit que l'esprit du monde se développe pour atteindre une conscience de plus en plus grande de lui-même. Comme les fleuves qui deviennent de plus en plus larges au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de l'océan. Selon Hegel, l'histoire n'est que le lent éveil de l'esprit du monde jusqu'au stade le plus avancé de la conscience de lui-même. Le monde a toujours existé, mais à travers la culture des hommes et l'évolution des hommes, l'esprit du monde prend de plus en plus conscience de sa spécificité.
Comment pouvait-il en être si sûr ?
C'est pour lui une réalité historique. Il ne s'agit nullement d'une prophétie. Quiconque étudie l'histoire verra que l'humanité se dirige vers une plus grande connaissance. L'histoire témoigne en effet que l'humanité évolue dans le sens d'une plus grande rationalité et d'une plus grande liberté. Malgré tous ces méandres, le processus historique va vers l'avant. Nous disons que l'histoire a un seul but, celui de se dépasser elle-même.
Bon, admettons qu'il y ait, comme tu dis, une évolution.
Oui, l'histoire n'est qu'une longue chaîne de pensée. Hegel indique quelles règles gouvernent cette longue chaîne de pensée. Il suffit d'étudier un tant soit peu l'histoire pour se rendre compte qu'une pensée vient souvent se greffer sur d'autres pensées plus anciennes. Mais à peine posée, cette pensée va être contrée par une nouvelle pensée, créant ainsi une tension entre deux modes de pensée. Et cette contradiction sera levée grâce à une troisième pensée qui conservera le meilleur des deux points de vue. C'est ce que Hegel appelle un processus dialectique.
Un processus dialectique ?
Tu te souviens de la discussion des présocratiques à propos d'une substance élémentaire et de ses métamorphoses ?
Oui, en gros.
Puis vinrent les Éléates, qui affirmèrent qu'aucune matière ne pouvait se transformer. Ils furent obligés de nier les changements que leur sens percevait pourtant dans la nature. Les Éléates avaient formulé cette affirmation, et c'est un point de vue de ce type que Hegel appelle une position.
Ah ?
Mais dès qu'une position est nettement définie, elle attire son contraire, ce que Hegel appelle une négation. La négation de la philosophie des Éléates, ce fut Héraclite qui déclara que tout s'écoule. À partir de ce moment, il y a une tension entre deux manières de voir diamétralement opposées. Mais cette tension fut conservée, niée, dépassée, subsumée quand Empédocle affirma que tous les deux avaient à la fois raison et tort.
Je commence à y voir plus clair.
Les Éléates avaient raison en affirmant que rien fondamentalement ne se transforme. Mais ils avaient tort en disant que l'on ne pouvait se fier à ses sens. Héraclite, lui, avait raison de croire qu'on pouvait se fier à ses sens. Mais tort quand il disait que tout s'écoule.
Car il n'y avait pas qu'une seule substance élémentaire. La composition changeait constamment et non les éléments eux-mêmes.
Très juste. Le point de vue d'Empédocle qui a départagé les deux points de vue opposés, c'est ce que Hegel a appelé la négation de la négation.
Oh là là, quel terme !
Il a qualifié les trois stades de la connaissance de thèse, antithèse et synthèse. Ainsi, tu peux dire que le rationalisme de Descartes était une thèse qui fut contredite par l'antithèse empirique de Hume. Mais cette contradiction, cette tension entre deux différents modes de pensée, fut niée et en même temps conservée dans la synthèse de Kant. Kant
donna raison à la fois aux rationalistes et aux empiristes sur des points précis, tout en montrant leurs erreurs respectives sur des points importants. Mais l'histoire ne s'arrêta pas avec Kant. La synthèse de Kant devint à son tour un nouveau point de départ pour une nouvelle chaîne de pensée composée de ces trois maillons que Hegel qualifie de triade. Car la synthèse, elle aussi, va être contredite par une nouvelle antithèse.
C'est bien théorique tout ça.
Effectivement, c'est très théorique. Mais Hegel ne veut pas appliquer un quelconque schéma à l'histoire. Il s'était borné à mettre à nu certaines lois qui régissent le développement de la raison, ou de l'esprit du monde, à travers l'histoire. Du reste, la dialectique de Hegel ne s'applique pas seulement à l'histoire. Quand nous discutons ou voulons expliquer quelque chose, nous pensons de manière dialectique. Nous essayons de déceler les défauts de l'argumentation. C'est ce que Hegel nomme « penser négativement ». Mais quand nous critiquons un mode de pensée, nous voulons conserver aussi ce qu'il a de bon. Par exemple, quand un socialiste et un homme de droite s'assoient autour de la même table pour résoudre un problème de société, il y aura forcément une tension entre deux façons de voir les choses, ce qui ne veut surtout pas dire que l'un a entièrement raison et l'autre entièrement tort. Au contraire, tout porte à croire que tous deux ont un peu tort et un peu raison. Au cours de la discussion, on ne retiendra finalement que les éléments positifs de chaque point de vue.
Je l'espère.
Cela dit, quand on est pris à partie, il n'est pas toujours aussi aisé de faire la part du raisonnable. C'est finalement l'histoire qui montrera ce qui était vrai ou faux. Ce qui est raisonnable, c'est ce qui est doué de vie.
Ce qui continuera à vivre, c'est ce qui est juste, c'est ça?
Ou vice-versa. Ce qui est juste, c'est ce qui continue à vivre.
Si ça ne te gêne pas, j'aurais bien aimé avoir un petit exemple.
Eh bien, il y a 150 ans, de nombreuses personnes revendiquèrent l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Mais d'autres s'insurgèrent contre cette égalité. Si nous nous penchons aujourd'hui sur l'argumentation des deux parties, il est très difficile de dire qui avait les arguments les plus raisonnables. Nous ne devons jamais oublier qu'il est toujours facile de dire, après coup, ce qu'il convenait de faire dans telle ou telle situation. Il s'avère que ceux qui prenaient l'égalité des droits entre les hommes et les femmes avaient raison. Plus d'un, pourtant, serait gêné de lire noir sur blanc l'opinion de son grand-père à cette même époque.
Ça ne m'étonne pas. Et qu'en pensait Hegel?
De l'égalité entre les sexes?
C'était bien de ça qu'on était en train de parler, non?
Tu veux une citation?
Volontiers.
La différence qu'il y a entre l'homme et la femme est celle qu'il y a entre l'animal et la plante, a-t-il écrit. L'animal correspond davantage au tempérament masculin, la plante davantage à celui de la femme. Car la femme a davantage un développement paisible, dont le principe est l'unité indéterminée de la sensibilité. Si les femmes sont à la tête du gouvernement, l'État est en danger, car elles n'agissent pas selon les exigences de l'universalité, mais au gré des inclinations et des opinions contingentes. La formation de la femme se fait, on ne sait trop comment, par imprégnation de l'atmosphère que diffuse la représentation, c'est-à-dire davantage par les circonstances de la vie que par l'acquisition des connaissances. L'homme, par contre, ne s'impose que par la conquête de la pensée et par de nombreux efforts d'ordre technique.
Merci, je n'en demandais pas tant.
Mais cette citation est un exemple excellent pour montrer à quel point la conception du « raisonnable » est en perpétuelle évolution. Elle révèle aussi que Hegel était un enfant de son siècle, comme nous tous. Nos conceptions, apparemment si évidentes, ne résisteront guère elles aussi à l'épreuve du temps.
Tu n'aurais pas un exemple?
Non.
Et pourquoi ça?
Parce que je parlerai de quelque chose qui serait déjà en train de changer. Je ne peux pas te dire que c'est une idiotie de conduire, puisque la voiture pollue la nature. Tant de gens l'ont déjà dit. Ce serait un mauvais exemple. L'histoire se chargera elle-même de montrer que nos prétendues évidences ne résistent pas au jugement du temps.
Je comprends.
Soit dit en passant, nous pouvons noter que c'est justement parce que les hommes, au temps de Hegel, clamaient si fort l'infériorité de la femme que le mouvement de libération des femmes a pu voir le jour. Comment ça? Les hommes ont avancé, selon Hegel, une thèse. Et s'ils avaient éprouvé le besoin de le faire, c'est que le mouvement de libération des femmes avait déjà commencé. Quel intérêt y aurait-il eu à défendre un point sur lequel tout le monde tombait d'accord? Plus leurs propos étaient virulents, plus l'antithèse ou la négation était forte. Je vois. Tu peux donc affirmer que rien ne vaut d'avoir des opposants énergiques pour progresser. Plus les détracteurs seront puissants, plus la réaction qu'ils provoqueront sera violente. C'est ce qu'on appelle « apporter de l'eau au moulin ». J'ai l'impression que mon moulin tourne vraiment à plein maintenant. De manière purement logique ou philosophique, il y aura souvent une tension dialectique entre deux concepts. Un exemple, s'il te plaît? Si je réfléchis au concept « être », je suis contraint d'introduire le concept contraire, à savoir « ne pas être ». Il est impossible de réfléchir à ce qu'on est sans penser dans le même temps qu'on n'est pas éternel. La tension entre « être » et « ne pas être » sera résolue dans le concept de « devenir ». Car pour que quelque chose devienne, il faut que cette chose à la fois soit et ne soit pas.
Je comprends.
La raison de Hegel est donc une raison dynamique. À l'image de la réalité qui n'est faite que de contrastes, il est logique qu'une description de la réalité soit contradictoire. Tiens, par exemple, on raconte que le célèbre chercheur en physique atomique, Niels Bohr, avait un fer à cheval au-dessus du pas de sa porte. Cela porte bonheur. Mais c'est de la pure superstition, et Niels Bohr était tout sauf superstitieux. Un ami vint lui rendre visite un jour et rapporta la conversation suivante. « Tu ne crois tout de même pas à ce genre de choses ?» dit-il. « Non, » répondit Niels Bohr, « mais je n'ai pas entendu dire que ça ne marche pas. »
« Ça me laisse sans voix. »
La réponse était assez dialectique, d'aucuns diraient même contradictoire. Niels Bohr déclara un jour qu'il existait deux types de vérités. Les vérités superficielles, où le concept opposé est faux de manière évidente, et les vérités plus profondes, où le contraire peut aussi être juste.
Quel genre de vérité?
Si je dis par exemple que la vie est brève, eh bien, je suis d'accord. Mais je peux, à une autre occasion, tendre mes bras vers le ciel et dire que la vie est longue.
Tu as raison, c'est vrai aussi.
Pour finir, tu vas entendre parler d'un exemple où la contradiction dialectique peut provoquer une action immédiate, entraînant à son tour un changement.
Je t'écoute.
Imagine une fille qui n'arrêterait pas de répondre « Oui, maman. Bien, maman. Comme tu veux, maman. Je le fais tout de suite, maman.
J'en ai des frissons. »
Puis un jour, la mère en a assez que sa fille soit obéissante à ce point et s'écrie, excédée, « Arrête de toujours dire oui !» Et la fille de répondre, « Non, maman. »
Moi, je lui aurais fichu une bonne paire de claques.
« Ah bon? Et qu'aurais-tu fait si à la place elle avait répondu, « Oui, maman. »
Ça aurait été une drôle de réponse. Peut-être que je lui aurais fichu une paire de claques aussi.
En d'autres termes, la situation est bloquée. La contradiction est tellement poussée à l'extrême que seul un événement extérieur peut dénouer cette situation.
Tu veux parler de la gifle?
Oui, mais il faut mentionner un dernier point à propos de la philosophie de Hegel.
Je t'écoute, tu sais.
Tu te souviens que nous avons dit que les romantiques étaient des individualistes?
Le chemin mystérieux va vers l'intérieur.
Eh bien, cet individualisme rencontra sa négation ou sa contradiction dans la philosophie de Hegel. Ce dernier souligna l'importance des forces objectives, c'est-à-dire, selon lui, la famille et l'État. Bien sûr, Hegel ne perdait pas de vue l'individu pris isolément, mais il l'incluait en tant que partie organique dans une communauté. La raison ou l'esprit du monde ne se révèle que dans les rapports des hommes entre eux.
Explique-toi.
La raison se révèle avant tout dans la langue. et nous naissons au monde avec une langue. La langue française peut très bien vivre sans M. Dupont, mais M. Dupont ne peut pas vivre sans la langue française. Ce n'est pas l'individu qui crée la langue, mais bien la langue qui crée l'individu.
Vu sous cet angle,
de même que l'individu naît au monde dans une certaine langue, il naît aussi dans un certain contexte historique. Et personne ne peut avoir une relation libre vis-à-vis de ce contexte. Celui qui ne trouve pas sa place dans l'État est une personne anhistorique. Cette pensée était, tu t'en souviens, importante pour les grands philosophes d'Athènes. Pas plus qu'on ne peut concevoir un État sans citoyen, on ne peut concevoir de citoyen sans État.
Je comprends.
L'État, selon Hegel, est plus qu'un simple citoyen, voire plus que l'ensemble des citoyens. Il est impossible, selon lui, de s'abstraire de la société. Celui qui se contente de hausser les épaules quand on lui parle de la société dans laquelle il vit et qui préfère vivre pour lui-même est un imbécile.
Je ne sais pas si je suis entièrement d'accord, mais bon.
Ce n'est pas l'individu qui, selon Hegel, vit pour lui-même, mais l'esprit du monde. L'esprit du monde vit pour lui-même. Hegel dit que l'esprit du monde retourne à lui-même en trois étapes successives. Il entend par là que l'esprit du monde prend conscience de lui-même en trois stades.
Raconte.
Tout d'abord, l'esprit du monde prend conscience de lui dans l'individu. C'est ce que Hegel appelle la raison subjective. Un degré supérieur est celui de la famille et de l'État, ce que Hegel appelle la raison objective, parce que c'est une raison qui se révèle au contact des hommes entre eux. Mais il existe encore un dernier degré.
Je suis curieuse de savoir ce que c'est.
La plus haute forme de connaissance de soi. L'esprit du monde l'atteint dans la conscience absolue. La conscience absolue, c'est l'art, la religion et la philosophie. Et de ces trois domaines, la philosophie est la forme la plus élevée de la raison, puisque dans la philosophie, l'esprit du monde réfléchit à sa propre activité au cours de l'histoire. Ce n'est donc que dans la philosophie que l'esprit du monde se réalise, atteint la parfaite égalité avec lui-même. Tu peux aller jusqu'à avancer que la philosophie est le miroir de l'esprit du monde.
C'était tellement étrange tout ce que tu viens de me dire qu'il va me falloir un peu de temps pour digérer. Mais j'ai bien aimé la dernière image que tu as employée.
Quand j'ai dit que la philosophie était le miroir de l'esprit du monde?
Oui, c'était une belle image. Tu crois que ça a un rapport avec le vieux miroir en laiton?
Oui, puisque tu me poses la question.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je pense que ce miroir a une signification particulière, étant donné qu'il croise constamment notre chemin.
Alors tu as peut-être une idée de ce qu'il signifie?
Non, non. Je dis simplement que le miroir ne reviendrait pas sans arrêt s'il n'avait pas une signification particulière pour Hilde et son père. Mais laquelle? Ça, seul Hilde peut le savoir.
C'était de l'ironie romantique?
C'est une question sans réponse, Sophie.
Pourquoi?
Ce n'est pas nous qui menons le jeu. Nous ne sommes que les victimes sans défense de ce genre d'ironie. Si un enfant attardé gribouille quelque chose sur un papier, ce n'est pas le papier qui pourra te dire ce que représente le dessin.
J'en ai froid dans le dos.